knockout. As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on Hart, le steak de Buckingham. La légende, le boss qui met coke. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En tout cas, c'est mais on, dans le fond, si on est croyant, on peut prier pour elle. Si on croit pas à ça du tout, il n'y a rien qui empêche.
Ça peut pas faire de mal en passant.
Ouais, ben oui, on peut au moins avoir une bonne pensée.
Exact.
Voilà.
Exact.
En direct d'une chambre à coucher de Rosemont, Montréal, je suis parti sur le party hier soir. Moi, je travaille 6 jours par semaine avec les fêtes et tout. Fait, j'en prends une pour faire le party. Ça a donné que c'était hier. Fait que je me suis pas encore couché. Puis là, il est 11h. Il n'y en a pas de problème. Je peux vous faire un podcast. Pourquoi je le fais aujourd'hui, c'est que je travaille demain, qui est dimanche le 2, si ma mémoire est bonne. Là, ça va brasser. On a Arslanbek Makhmoudov qui se bat à Toledo, Ohio, ce soir. Je vais y aller de mes prédictions. Comme ça, vous allez pouvoir rire de moi si j'ai pas eu raison. Ce podcast-là, veux pas, le premier segment, je vais le dédier. Le podcast est dédié à ma bonne amie Martine Vallière-Bisson qui a été opéré cette semaine pour le cancer. Martine, la coquine, elle n'en parlait pas tant que ça. Hein. Elle voulait garder ça pour elle. Mais c'est ça, Martine Vallière-Bisson. Elle ne voulait pas inquiéter ses proches avec ça. Mais là, finalement, ben là, on a tout bien de la peine aujourd'hui. Hein. Puis là, Martine, elle me surprend toujours. Elle dit, je pensais pas que j'étais autant aimé. Je dis, tabarouette, Martine. Tu pourrais devenir mairesse de Longueuil tellement que t'es connue. Mais on dirait qu'elle se rend pas compte de ça, que le monde, à quel point le monde l'aime. Tu sais, elle pense là, que c'est un être humain normal. Là, elle ne s'en rend pas compte. Mais alors que c'est une grande personne. Et Martine, c'est toi-même un jour qui m'a dit, et je cite, « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter. » Une aventure, attends, mon Dieu, je vais recommencer du début. C'est Martine Vallière-Bisson qui m'a dit, et je cite un jour, « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. » Bon, je sais pas ce que ça vient faire avec ta maladie, mais moi, je ne suis pas inquiet. Tu vas passer ça facilement, mais là, le premier segment, je vais en parler parce que la maladie de Martine, tenez-vous bien, ça a remis beaucoup de choses en perspective dans ma tête. Puis là, je me suis mis peut-être à trop analyser puis suranalyser. Mais là, j'étais en colère. Et ce sera mon premier segment. Ce sera un segment où je vais vous parler de ma spiritualité et mes croyances à travers le fait que la vie a attaqué ma meilleure amie. Donc, on va vivre ça tantôt. Ça va être excellent, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est la fête du Canada. Bon, moi, c'est ma journée, une de mes journées préférées dans l'année parce que je suis un grand fan du Canadien de Montréal. Les salauds qui ont repêché David Reinbacher au lieu de repêcher Matvei Michkov. Pour vous donner un exemple, OK? Je vais donner un exemple vraiment mal commode. Je vais vous donner l'exemple, OK? C'est un peu comme si je vous disais, voulez-vous repêcher Arslanbek Makhmoudov ou En place, vous pouvez prendre Dylan Carmen. Bon, ce qui est sûr, c'est que Carmen va se battre le mois prochain au Québec. Tandis que Makhmoudov, ça se peut qu'on ait de la misère avec son visa de travail. Okay? Puis là, vous vous dites, oh, on va prendre Carmen. Il y a une chance d'être champion canadien. Au lieu de vous dire, on va prendre Makhmoudov, il y a une chance d'être champion du monde. Mais ça va être moins de troubles pour la paperasse puis les affaires. On a pris le gars qui allait jouer 15 ans. Il va jouer 15 ans comme défenseur numéro 2. Il va faire ses petites affaires. Ça va être un bon choix au final. Mais même si c'est rendu illégal au Canada, on aurait pu avoir un feu d'artifice avec Matvey Mishkov. On aurait pu avoir un gars de 100 points, un gars de 50 buts. J'ai pas vu ça depuis Matt Naslund. Mais non. Nous autres, on se pack en défensive. Ah ouais, on va être bon défensivement. On donnera pas beaucoup de buts. Ça va être le fun, ça. J'ai déjà hâte de perdre connaissance devant ma TV samedi soir tellement que c'est plate. Bon, la fête du Canada, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Laurent, on aime ça, tes chroniques historiques. On aime ça quand tu fais la nomenclature des anniversaires. Il faut comprendre que moi, je suis quand même assez érudit. Je prépare rien, puis je réponds aux questions. Tu sais, comme là, vous me demandez la fête du Canada. Si ma mémoire est bonne, avant, c'était appelé le jour de la Confédération. Ça a été aussi appelé par mes grands-parents la fête du Dominion. C'est un jour férié commémorant la date de formation du Canada, qui est bien sûr la reine Victoria du Royaume-Uni, qui, le 22 mai 1867, a proclamé le début de la fédération. La fête est toujours célébrée le 1er. Il y a des spectacles, des défilés. Et avant que ça devienne illégal, il y avait des feux d'artifice. Au Québec, je ne sais pas si c'était pour se moquer de la fête du Canada, mais la vraie raison, c'est que ils ne voulaient pas perturber les enfants pendant leur année scolaire. Donc, on a passé une loi, si ma mémoire est bonne, c'est en 74, me semble, la loi a été passée, qui obligeait les beaux, mais est-ce qu'on avait les beaux, ça c'est le pluriel de un bail, comme on dit, plus un bail, qui obligeait les beaux, ou qui obligeait votre bail, à se terminer le 1er juillet, pour pas que les enfants soient obligés de changer en plein milieu de l'année. Puis ça, il n'y a rien de plus traumatisant que quand on change ta fête en plein milieu de on change ta classe en plein milieu de l'année. Aussi, le 1er juillet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le début de la deuxième moitié de l'année. Avant, on disait que tu commençais à travailler pour toi le 1er juillet. Le premier 6 mois, tu travaillais pour le gouvernement. Après ça, tu travaillais pour toi. Vous me posez la question, la SQDC puis la SAC sous ouvert. Hey, j'ai une maudite bonne nouvelle pour vous autres. Vous pouvez vous acheter de l'alcool, mais vous ne pouvez pas vous acheter de pot. C'est de même la journée du 1er juillet. Les bureaux de la ville sont fermés jusqu'au 3. Le Biodôme, Planétarium, Musée des Beaux-Arts, ça c'est ouvert pour qu'on puisse justement en profiter. Les bibliothèques, c'est du cas par cas. C'était ta chronique 1er juillet et bien sûr, moi, je vais écouter le marché des joueurs autonomes. Ça me fait rire. Tu sais, les équipes de hockey, là, ils essayent de construire une équipe. Là, ça marche plus ou moins. Là, le directeur-gérant sent qu'il va perdre sa job. Il se revient. Ah ouais, il envoie 28 millions sur 5 ans à Carl Osner. Carl Osner arrive ici, patine sa bottine, de la misère tournée d'un bord. On fuck la concession du Canadien. Là, hier, on a vu des joueurs se faire racheter. Blake Wheeler, Matt Duchesne. En tout cas, j'ai bien hâte de voir parce que ça commence à midi. Fait que là, moi, je fais le podcast à 11h23. Après ça, imaginez ma journée. Mais je travaille demain, mais imaginez quand même ma journée. Je vous la raconte. Je me suis couché à 5h du matin. Je me suis levé à 10h. Là, j'ai fait mon podcast. J'ai mangé une petite dose. À midi, je regarde les joueurs autonomes. À 3h, j'écoute la lutte chez mon bon ami Jonathan Géria. Il y a les frères Ousso qui affrontent Solo Sikoa et Roman Reigns en Angleterre. Okay. Après ça, j'écoute Franken Crew de Zern contre Savannah Marshall. Je me couche de 7 à 11. J'écoute Makhmoudov. Je me recouche jusqu'à demain matin. Je m'en vais travailler. Je collecte le temps double. je reviens à la maison, puis j'ai congé lundi. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma semaine. Je vous raconte. Aujourd'hui, ma mère n'a pas fini de lire le livre, mais je vous ai préparé une grosse chronique. Les gens du monde de la boxe puis du monde du judiciaire, comme vous autres, là, vous êtes tous judiciarisés. Vous avez connu l'histoire de Frank Choufi, qui aurait été assassiné par la pègue montréalaise sous les ordres de Don King. T'sais, puis votre grand-père vous a raconté ça. Mais j'ai étudié le dossier. Là. On va vous conter la vraie histoire aujourd'hui. 10-4. Bon, cette semaine, ça fait à peu près une couple de semaines là, que j'ai appris que Martine Vallière-Bisson avait un cancer du sein qu'elle devait être opérée. Premièrement, ça, mais Martine, fâche-toi pas, mais quand j'ai su qu'elle était stade 2, là, j'ai demandé au monde dans mon entourage. Puis les gens, c'est un peu étrange, puis j'ai eu cette conversation-là avec Julie Bertrand. Les gens, ils vont dire « Ah, stade 2, elle a été prise de bonne heure, il n'y en a pas de problème. » C'est comme si on voulait dire que tout va bien aller. Genre. Ben oui, là, Martine, tout va bien aller. Mais stade 2, c'est quand même assez sérieux. Là. C'est pas la petite affaire. Là. Ça sera... c'est une épreuve. Puis là, c'est étrange, hein, parce que quand j'ai su que Martine était malade, étrangement, mon réflexe, ça a été de remettre en question ma spiritualité. C'est que moi, veux pas. Il y a des gens qui disent qu'en vieillissant, on finit toujours par croire au bon Dieu parce qu'on trouverait ça bien plate de s'en aller poussière, puis ce serait bien plus fun, le paradis, avec les nuages, le fromage Philadelphia, puis plein de belles filles avec des ailes dans le dos parce que c'est des anges. Fait qu'on a envie de croire à ça. On a envie de pas penser que tout s'éteint puis qu'on fait juste disparaître. On a envie aussi de retrouver les êtres chers qu'on a perdus. Donc, je veux dire, de manière vraiment hypocrite, j'aime croire à une force supérieure pour penser qu'il y a une vie après la mort, tu sais. Podcast de boxe qui dérape un peu, mais ça me fait du bien de vous parler. C'est au pire, avancez si vous me trouvez plate. Fait que là, je me posais la question, mais pourquoi le bon Dieu, s'il existe, a attaqué ma Martine Vallière-Bisson que j'aime tant? Okay? Martine, qui est la meilleure personne au monde. Martine, qui, quand elle s'occupe d'une jeune athlète de 7 ans, calcule pas le nombre d'essence qu'elle met dans son char pour aller la coacher dans ses petits combats d'exhibition un peu partout. Martine, qui quand s'occupe d'athlète, mais comme la petite fille de 7 ans, va à son party de fête, va à sa graduation à l'école. Toutes des affaires qu'un coach n'est pas obligé de faire pour le 40$ par mois que le parent paye au club de boxe, tu sais. Martine, c'est un cœur sur deux pattes. C'est la meilleure personne au monde. Martine, elle a sacrifié sa vie pour la boxe, OK? Pensez-y, là, elle fait le tour des écoles avec un programme, Pédago-Box, ma mémoire est bonne, puis elle vend son programme aux écoles, puis elle leur présente la boxe. Mais ça, là, je sais pas si vous le savez, là, ça vient pas comme moi au fédéral. Là. Moi, au fédéral, là, OK, je fais ma petite job tranquille, je travaille comme il faut, je fais mes affaires, c'est très calme, j'ai l'air climatisé, il fait beau, j'ai une pension à vie, puis j'ai pas besoin de courir après les clients, OK? Mais Martine, elle a pas de fonds de pension. Souvent, il y a pas beaucoup d'étudiants, les étudiants, ils embarquent, mais là, la commission scolaire, elle gosse pour dire, on va te payer sur le prochain budget d'un autre trimestre, à court après les dollars. Elle fait des conférences, à 300$ par jour, mais ça y prend 4 heures pour se rendre à l'école où elle va, ça met de l'essence. Après ça, il faut qu'elle lave toutes les bandelettes, parce que c'est comme clé en main, là. Elle arrive avec les gants, les bandelettes, puis toutes les affaires pour les jeunes. Fait que ça finit, là, que son 300$, elle en a mis 100 en essence, 40 pour manger, puis ça y a pris 14 heures faire la lessive, tu sais. Fait que c'est pas... C'est pas, elle roule pas sur l'or, là. Tout ce qu'elle souhaitait, Martine, là, c'est avoir un combat aux 4 mois pour faire sa petite carrière. Mais je vois le vert, à cause qu'elle est passée pro à un âge plus avancé, il n'y a pas de promoteurs qui l'ont aidé. Elle paye pour se battre. Elle a payé deux fois pour se battre au Mexique avec son argent personnel. Martine, ça gagne à la loterie, là. Elle va pas faire comme vous autres puis acheter un 4 roues puis un 6 doux. Elle va se payer un combat au Mexique parce que c'est plus simple là-bas pour faire avancer sa carrière. Puis le bon Dieu, lui, quand il a choisi dans le chapeau à qui je donne le cancer, cette journée-là, mais il a choisi la meilleure personne au monde. Puis ça, ça m'a remis bien des affaires en question. Quand je me promène sur la rue, là, puis je vois hier, là, il y avait un monsieur qui se promenait. Là, je suis en train de prendre une marche avec mon ami. Puis il y avait un monsieur, là, les genoux, là, c'est comme si ses genoux étaient comme rentrés à l'intérieur, il y avait un handicap. Puis là, j'ai regardé mon ami, puis c'est pas juste la vie. Tu sais, regarde les genoux du monsieur l'autre bord. Puis là, elle m'a pris dans ses bras parce qu'elle voyait que j'étais sensible avec toute cette histoire-là. Puis là, je vois Martine qui est malade puis qui mérite pas ça. Je vois les enfants malades. Puis je me dis, voyons, s'il y a une force supérieure qui peut faire des miracles comme transformer l'eau en vin puis le pain en poisson, pourquoi ils donnent des handicaps puis des maladies aux gens? Je... Ouais. Puis j'étais fort. Surtout les bonnes personnes. Tu sais, je dis, va garrocher maladie à Bordeaux en prison. Je... Va pas garrocher maladie sur ma Martine. Je... Fait que je trouve que c'est une grande injustice, la maladie de Martine. Un an après, tu sais, on apprend Odile Letellier, qui est sa meilleure amie, une excellente boxeuse aussi dans la région de Québec. Ça fait un an, elle, que je pense qu'elle est comme en rémission. Là, je me souviens plus trop comment ça fonctionne. Pour fêter son un an, ça, elle apprend que Martine a le cancer. C'est le fun en maudit. Fait que j'en veux à la vie. J'en veux au bon Dieu. J'en veux à peu près à tout le monde. Puis c'est injuste qui arrive à Martine. Puis ça donne envie de plus croire à rien. Puis d'aller se faire des tatous genre, partout sur le corps. C'est ça, ma réflexion aujourd'hui. Ça m'a rendu vraiment malheureux, cette histoire-là. Puis ça m'a donné envie de ne plus croire en rien. Et de ne plus faire confiance à la vie. Donc, après autant de positivisme, j'ai préparé une petite chronique. Comment parler à nos amis qui ont le cancer? Comment on peut... N'ayez pas peur de dire... n'ayez pas peur de demander comment tu te sens, comment tu vas. Montrez, il faut que ce soit vrai, là, montrez votre intérêt, montrez votre sollicitude, montrez que vous encouragez, montrez que vous êtes là. T'sais, comme moi, cette semaine, exemple, j'avais lu comment me comporter avec quelqu'un qui a le cancer. Puis là, je sais pas quoi te dire, mais je vais te dire que tu comptes pour moi et je t'aime. Je pense souvent à toi, je suis désolé que ça t'arrive. T'sais, pas besoin que ce soit des grandes phrases. T'sais. Puis il y a des propos qui servent à rien puis que je trouve ça poche. T'sais, comme dire oh, fais-toi-en pas, c'est un bon cancer. Que ça n'existe pas des bons cancers. Fais-toi-en pas, c'est juste le stade 2. On ne sait pas c'est quoi. On est face à l'inconnu quand même. T'sais. Dites pas des phrases poches de même. Bien sûr, on peut s'informer aussi, tu sais, parce qu'il y a 100 types, il y a plus de 100 types de cancers différents. Et on peut aussi tu sais, avoir de l'empathie pour sa mère, pour sa sœur. Tu sais, sa mère est allée passer 2 jours avec elle. Ça aussi, on peut encourager les gens autour. Et là, après ça, ben là, on va voir, tu sais, on va apprendre c'est quoi le protocole de traitement. Puis là, c'est ça, c'est la vie, hein, c'est l'inconnu, c'est tout ça, puis je trouve ça tellement injuste, là. Je trouve ça tellement injuste, Martine, j'ai juste envie de te prendre dans mes bras puis de te bercer avec de la musique douce pour le restant de la fin de semaine. C'est injuste que t'es arrivé. Puis, si t'as besoin de moi, là, ben dis-le, je peux t'envoyer un poulet ou une lasagne chez vous avec Uber Eats, là. Aussi, qu'est-ce qui est très important aussi quand on est un... Ben, je m'en allais dire que j'étais un aidant naturel. Tout ce que je fais, c'est l'encourager par texto, là, puis parler un peu. Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est que souvent, dans le monde dans lequel on vit, on laisse pas les gens être tristes. Oui, on peut rire. Oui, on peut s'amuser. Mais il y a un moment aussi que tu as le droit d'être triste. Même si tout va bien, là, puis on a le droit de trouver que c'est difficile. La personne a le droit d'être triste. La personne a le droit d'exprimer sa tristesse. Il ne faut pas tout banaliser. Il ne faut pas dire hey, « essaye d'être positive ». Non, hein. Ça peut être comme ça. Genre, c'est des phases. Quand quelqu'un pleure, on la laisse pleurer. Genre. Ça peut être un homme aussi. On a le droit de pleurer. C'est fini l'histoire des brutes. Là. On n'est pas en 73. Là. Moi, j'ai du chagrin présentement. Puis... en vidéo, là, vous verriez peut-être que j'ai les yeux pleins d'eau, OK, mais en même temps, j'aime mon image de brute. Là. Donc, Martine, je sais pas. Moi, je sais pas si c'était correct là, que j'ai dit, mais je t'aime. Je suis là si t'as besoin que je t'envoie une lasagne. Si t'as besoin de faire l'épicerie, il y a Marie-Pierre Roule qui s'est proposée. Si tu veux que je fasse ta lessive, que je nettoie ta maison, que je ramasse ton courrier, que je pèle la neige chez vous, fais juste me faire signe. Je t'aime, le Québec t'aime, puis on est. C'est pas. C'est le Québec qui est en arrière de toi. Des fois, là, je pense que les gens ils risent de moi sur Boxing Town. J'ai publié que le combat de Arslanbek Makhmoudov était sur TSN 5 à 22h58. Il y a 6 personnes qui m'ont écrit c'était à quelle heure. Et là, je me dis, êtes-vous vraiment épais ou vous riez de moi? Fait que là, je sais plus. Puis je suis fâché. Mais fâché, entre guillemets. Là. Fightnight.co, le défi du peuple. Mes bons amis, Sébastien Forg. En tout cas, ça s'écrit Forg. Là, tantôt, il m'a dit Forg. En texto, donc on n'est jamais sûr de son nom de famille. C'est peu connu. Et Benjamin Théberge, grosse nouvelle. Eux, ils font. À chaque gala qu'ils font, c'est pour permettre. Et là, je reviens souvent avec ça. C'est pour permettre aux boxeurs amateurs de vivre une expérience de combat professionnel. Puis là, ils ont fait ça gros. Puis il y a beaucoup de gens. Tu sais, j'avais impliqué beaucoup de gens là-dedans. Je vais vous conter un peu le projet. Puis là, tout le monde me dit « Tabarouette, j'ai rencontré Sébastien Forgue cette semaine. Homme sérieux, il parle en bien de toi, il est arrivé avec son projet. » Ouais, disons là, que si vous avez à vous associer avec Benjamin Théberge et Sébastien Forgue, vous vous trompez pas. Là. Deux hommes d'affaires sérieux, mais surtout très gentils. Et à chaque fois qu'ils font un gala, ils l'associent à quelque chose pour aider, là, à une fondation, quelque chose. Et là, c'est la fondation Le Fort, Chacun pour toi. C'est une fondation qui vient en aide aux femmes battues. Là, sur le gala, il va y avoir Janie Barré. Ma mère prépare sa chronique toujours la semaine prochaine sur le livre de Janie Barré, qui est la fille de Bernard Barré, que l'ostéogenèse, ses os sont vides. Il n'y a pas un os qui ne s'est pas cassé 4-5 fois. Ma mère va vous raconter sa vie dans le prochain podcast. Elle sera là dans un combat de chaise roulante. Et là, je fais l'annonce. Eux, ils sont allés présenter le projet. Expo agricole. L'argent va pour une maison de femmes battues. Et tenez-vous bien, Jean-Pascal embarque et sera en grande finale dans un combat de exhibition slash démonstration contre un champion de kickboxing, Faxon Perrine. Il faut prononcer Perrine. Donc là, ça va être gros là, cette semaine. Là, moi, j'ai l'exclusivité ici, je vous l'annonce. Fightnight.co, si vous voulez venir, achetez-vous une table. Petit poulet, brie et bacon avec petit verre de vin, de la bière, party pogné. Jean-Pascal contre quelqu'un de kickboxing. Faxon Perrine. Siama Kramati contre Éric Lapointe. Poussé par le vent, rien dans les poches. La Bohème. Au gré des saisons, ainsi que contre Siama Kramati, mon ami que j'ai entraîné moi-même. Il y a un combat revanche du défi des champions. Ça va être gros. Donc, fightnight.co, achetez vos billets. Là, pendant que tout le monde me demande « Hey, il va-tu se battre, lui? Comment il s'appelle, là? Arslanbek Makhmoudov contre... Là, il faut se rappeler, Arslanbek Makhmoudov, ce soir, il affronte Raphaël Akpigiori sur Début américain sur Top Rank. Et là, moi, ça me rappelle quelque chose, OK? Dans la vie, là, on n'a pas souvent deux chances de faire bonne première impression. C'est ça, l'expression. Un jour, il y avait mon bon ami Oscar Rivas. Lui, il faisait sa petite affaire. Puis, vous allez voir mon parallèle avec Arslanbek Makhmoudov. Il avait débattu à peu près tout ce qui bougeait. On va l'envoyer aux États-Unis pour faire face à Jason Pétaoué, qui est un prospect, OK? Rivas, il va swinguer Pétaoué trois fois au sol, mais il va le taper pendant qu'il est au sol. Et là, il gagne au premier. On est sur la télé américaine. Et là, on passe proche qu'il se fasse voler, qu'il perde sur Showtime, OK? Il est en sous-carte de Sam Soliman contre Dominic Wade. Donc là, on fait comme « Wow! » Rivas vient de passer le test. Il a éclaté le gars au premier. Mais il l'a tapé au sol. Il a failli se faire disqualifier. Fait que là, il passe le test, mais on n'arrive pas à embarquer sur le momentum. Il fait d'autres combats. Finit par affronter le frère Carpency, Carl Davis Drummond, qui bat en 66 secondes. Là, ça marche pas trop fort. Okay? Là, on va y trouver un combat. Là. Rappelez-vous là, que Arslanbek Makhmoudov, lui, a affronté Carlos Takam. On va trouver un combat à Oscar Rivas contre Gabriel Nguema. Nguema, c'est un culturiste espagnol qui est taillé au couteau, qui mesure 6 pieds 5,5, mais qui a perdu contre le Canadien Frank Will. Il a perdu contre Christian Lewandowski par KO. Il a fait la limite avec Raphaël Tronche. Pourquoi on l'amène contre Rivas? Parce qu'il est connu en France et on veut placer Rivas contre Carlos Takam. Et là, Rivas va avoir la grippe. À l'époque, ça existait, la grippe. On est avant le H1N1. Puis Rivas est quasiment mourant dans le ring, OK? Mais savez-vous ce qui va arriver? Il va faire une contre-performance. Et là, ben, il va perdre sa chance à Takam parce que la télé débarque. Puis ça va reculer sa carrière de 2-3 ans, OK? Ce soir, Arslanbek Makhmoudov affronte Raphaël Akpi-Jiori. Il est en sous-carte de Jared Anderson, qui est le grand espoir américain. Là, cherchez pas midi à 14h. Qu'est-ce qu'on est en train de planifier? Là? C'est de mettre Jared Anderson, l'américain, contre Arslanbek Makhmoudov, le russe, en temps de guerre froide. Puis ça va faire un combat sur fond de... Ben, sur fond de guerre, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais la guerre, c'est vendeur. Ça vend des billets. Le grand espoir, Jared Anderson, un noir, contre le grand russe Makhmoudov, peut-être avant la fin de l'année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Makhmoudov ne peut pas échapper sa première occasion sur la télé américaine, comme Rivas l'avait fait à l'époque. Il se doit d'éclater en morceaux Raphaël Akpi-Jiori, un joueur de basketball qui frappe dur, qui est plus grand que lui, légèrement plus petit, mais qui est lent. Il est lent comme votre grand-père qui essaie de se lever à Noël après deux verres de vin. Okay, ça n'a aucun bon sens comment il est lent. Il frappe fort, mais il est lent. Ma prédiction, Makhmoudov au premier round. Merci, bonsoir, on ferme les livres. Et là, ça met de la pression en finale à Jared Big Baby Anderson qui affronte Prince Charles Martin. Alors, Big Baby Anderson devrait gagner au deuxième. Et là, sur les médias sociaux, ben, cherchez pas midi à 15h, ça va être hashtag Makhmoudov, Jared Anderson. Merci, bonsoir, on veut le combat. Fait que vous voyez, je dirais que tu sais le problème, hein. Hein? Un autre problème de régler. C'est-tu facile? C'est assez facile. Scène locale, le groupe Yvon Michel a repoussé son 5e gala consécutif après qu'il y a eu une grève au Casino de Montréal. Donc là, ça va faire que Marie-Pierre Roule finalement va se battre en sous-carte de... Marie-Pierre Roule va se battre en sous-carte puis de Kim Clavel. Et pendant ce temps-là, tout le monde est heureux. Là. Ouf, attendez-vous à voir au casino Caroline Vert, Jonathan Dibiela, Thierry Ozias, Derek Pomerleau, Mohamed Zawadi, peut-être un Steve Rose au travers dans les locations. Ça va ressembler à ça. Et je mentionnerai que j'ai rien d'autre à mentionner, c'est ça. Le gala a été repoussé, ça arrive.
C'est équipé, j'ai des masques, j'ai les... le fameux match en 95, et il faut faire attention.
J'ai vraiment l'impression que ça, c'est mon meilleur podcast depuis au moins 50 ans. Là. Je suis vraiment en grande forme. Là. J'ai pas dormi de la nuit, mais c'est. Je pense que c'est la première fois que je me prépare à l'avance sur ce que je vais dire. Ça, ça fait toute une différence. D'habitude, je prépare jamais rien. Puis là, je me lance un peu tête première. Aujourd'hui, là, j'ai voulu éclairer un dossier. Chronique Claude Poirier, dossier judiciaire. Claude Poirier. Frank Choufi, mesdames et messieurs. Si vous parlez à vos grands-parents ou quelque chose, ils vont vous dire que Frank Choufi a été assassiné par Don King. Mais quelqu'un qui aurait travaillé pour Don King. En gros, je vais vous raconter l'histoire. Mais premièrement, je vais vous dire, c'est qui ça, Frank Choufi? Là, tenez-vous bien, Frank Choufi, c'est un criminaliste, mais c'est quelqu'un qui aide beaucoup dans son quartier, très connu, il refuse aucune cause, il fait du bénévolat, il aide tout le monde, OK? C'est un criminaliste qui ne calcule pas vraiment son temps et qui aide tout le monde dans le quartier, OK? Frank Choufi, on va commencer à entendre parler de lui, c'est parce que à l'Oratoire Saint-Joseph, OK? Là, Alfred Bessette, ça vous dit rien, le frère André, il aurait fait des millions de miracles à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis là, son cœur, au frère André, il est dans l'entrée, puis on le laisse là comme un monument pour rappeler les guérisons miraculeuses. Mais il y a des petits bums, le 16 mars 73, qui sont allés voler le cœur du frère André, mesdames et messieurs. Faut-tu le faire? Ça fait que là, ben, mon pauvre frère André, qui est mort à 91 ans, qui a été canonisé par l'Église en 2010, fait partie du folklore québécois parce que son cœur est dans l'entrée. Il a guéri d'une centaine de personnes. Puis les policiers ont sauté une grille, puis ont volé le cœur du frère André. Puis là, il n'y a personne. Là, on cherche chez qui le voleur, comprends-tu? Et c'est Frank Choufi qui va dire au voleur, ben regardez, là. Venez, remettez-nous le cœur, moi puis Claude Poirier, on fera pas de trouble, faites juste nous ramener le cœur du frère André. Et finalement, les brigands vont indiquer à Claude Poirier, qui à l'époque a un cellulaire qui doit être à peu près gros comme un haltère de 50 livres, ils vont lui dire, voici, il est où le cœur, puis ils vont sacrer ça d'un sac à déchets, d'un immeuble résidentiel du sud-ouest. Et là, c'est là que Frank Choufi commence à se faire connaître. Là, on va parler de boxe. OK? Frank Choufi, c'est l'avocat des Hilton. La famille Hilton a Frank Choufi pour les aider avec ses contrats. Choufi adore la boxe et il s'occupe des Hilton. C'est ce qu'on appelle pro bono dans le système. Il n'est pas payé, il les aide. Mais là, tenez-vous bien. Là. On est à l'époque où il y a une commission d'enquête sur la boxe québécoise avec présidée par le juge Raymond Bernier. OK? Qui essaye de voir qu'est-ce qui se passe en boxe. Y a-tu des patentes? Y a-tu des affaires croches? Et Frank Choufi, lui, qui aide les frères Hilton, s'oppose à ce que la famille Hilton signe un contrat avec Don King, le célèbre promoteur américain. Fait qu'il s'oppose, il veut rien savoir. Et c'est pas vrai qu'on va signer avec la famille Hilton, avec Don King. Mais un soir, parce que là, il faut aller de l'autre côté, OK, il y a la famille Cotroni qui, elle, va souvent payer des épiceries ou payer le loyer de la famille Hilton. Mais eux, selon le folklore, auraient été en relation avec Don King, auraient payé une brosse monumentale à Dave Hilton père, qui lui aurait signé pour tous ses fils avec Don King. Mais là, c'est que Frank Choufi, lui, il décroche pas, mais Frank Choufi était toujours prêt à aider tout le monde, les riches, les pauvres. Il était de toutes les lignes ouvertes à la radio. Il refusait jamais une apparition à radio ou à télévision. Ça fait que Choufi, lui, sort publiquement pour dire que il est en beau joie le vert de ce contrat-là. Okay? Puis il s'oppose au contrat. Mais Frank Choufi, il avait été aussi l'avocat de... l'avocat de Richard Blache, Monica Lamitra, il aimait les médias. Et là, Choufi va se faire assassiner à 23h30 devant ses bureaux de la rue Cherrier par des tueurs à gages. Et on va tout de suite associer que c'est Don King qui est derrière ça, parce que ça a déplu à Choufi la signature, ça a été, les choses se sont gâtées, puis il a été assassiné. Puis ça va rester de même. Si vous fouillez, là, l'histoire finit un peu comme ça. Mais je vais vous dire la fin de l'histoire. Là. Mais un peu plus tard, on apprend que c'est un criminel qui a été enfermé à cause que Choufi l'a représenté puis il n'a pas réussi à gagner la cause. Et là, c'est lui qui va aller se venger, qui va assassiner Choufi. C'est pas, mais c'est ce qu'on entend, là. C'est pas vraiment encore réglé, mais ce serait pas en lien avec la boxe. Ce serait pas en lien qu'un conflit avec Don King. Mais c'est l'histoire qui va toujours rester. Puis que on va encore dire aujourd'hui, si vous fouillez dans... Tu sais, j'ai beaucoup fouillé sur les archives avant de vous en parler. Et... partout dans les années, tous les textes des années 80, ils mentionnent « Ah, Choufi est assassiné à cause du contrat des Hilton. » Tu sais, c'est quelque chose qui est dans le folklore québécois. Et Choufi, qui avait une magnifique coupe de cheveux, surnommé l'avocat des Hilton, aimait beaucoup la télévision. Eh bien, ça fait partie du folklore de la boxe. Dans cette nouvelle chronique, la boxe et le crime, présenté par Laurent Poulain. En direct, pendant que je vous parle, Bakodir Jalala vient de signer avec Top Rank. Grand gaucher de 6 pieds 7. Lui, il laisse des corps morts dans le ring. Gagné les derniers Jeux olympiques. Devient le 10e boxeur de Top Rank. Ça va brasser avec un gars de l'Ouzbékistan, avec Makhmoudov, avec Jared Anderson, avec le gagnant de Kane contre Guido Vianelli. On a peut-être, je ne sais pas si Oscar Rivas va revenir un jour, ça va brasser. Jermall Charlot était supposé affronter Canelo Alvarez. Il a des problèmes de santé personnels. Problèmes personnels. Donc, il ne peut pas se battre. Mais son frère a pris le combat, Jermall. Bon, ben... ainsi va la vie. Hein. Deux problèmes personnels et 2 ans d'inactivité pour Jermall. Donc, Jermall s'en occupe. Aujourd'hui, il y a un combat qui m'intéresse énormément entre Franklin Crudozern et Savannah Marshall. Crudozern, c'est une très bonne boxeuse chez 168. Vient de l'équipe nationale, a unifié les ceintures. Et là, elle affronte Savannah Marshall. Marshall qui est largement favorite. Marshall qui veut péter Crudozern pour convaincre Clarissa Shields de retourner contre elle. C'est à l'après-midi sur ESPN+, et c'est aussi sur TSN Web. Incroyable. Hein? Errol Spence a déclaré à Crawford que Crawford se croit beaucoup trop. Il dit il croit un petit peu trop en lui. Ce soir, Jared Anderson voudra briller contre Prince Charles Martin, l'ancien champion de la IBF. Surveiller Martin en début de combat, il a une grosse gauche. Mais arrêter de le surveiller à partir de la 2e minute, ça c'est terminé. Shakur Stevenson a callé à peu près tout le monde. Il a dit « J'aimerais me battre, je suis prêt à n'importe qui ». Jermall Charlot, lui, aimerait mettre fin au règne de Canelo à 168. C'est Jermall et non Jermall qui a pris le combat. Surprenant. Jermall qui avait toutes les ceintures à 154 à un moment donné dans l'histoire. Joe Joyce pourrait se faire aider de Tyson Fury dans sa quête pour son combat revanche contre Zhang Liang. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma feuille mobile? Ugi Fury aimerait affronter Anthony Joshua, dit qu'il marcherait sur le dos. Tyson Fury affronterait un homme d'MMA à son prochain combat. Un homme d'MMA, un combattant de MMA à son prochain combat. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Roy Jones, et ça c'est un peu bizarre. Hein? Roy Jones, ça c'est bien étrange, ok? Roy Jones, je sais pas comment vous le décrire, c'est un aréna. C'est Roy Jones, ok? Qui va promoter, qui va se battre contre un culturiste dans un combat qui a lieu dans la métaverse. Dans la métaverse. Fait que c'est qu'un aréna un vrai combat, mais dans un aréna virtuel contre un culturiste qui s'appelle NDO. Un culturiste de 250 livres qui s'appelle NDO. C'est sur Fit ce soir, c'est Celebrity Boxing. Ouais, ouais, en tout cas, on aura tout vu. Devin Haney a dit que Mayweather est tout fucké dans le sport. Isaac Cruz est focusé sur Cabrera, mais aimerait une revanche contre Gervonta Davis. Usyk et Fury, ça pourrait être en janvier en Arabie Saoudite. Et c'est à peu près tout pour tes nouvelles de la semaine. Et c'est à peu près tout pour ton podcast préféré. Podcast où j'ai vraiment laissé parler mon cœur. Martine Vallière-Bisson, le Québec est derrière toi. On t'aime. La IBF a ordonné un combat entre Soubriel Mathias et Sojahan Ergachev. Si ça, ça arrive, potentiel combat de l'année. Martine, c'est ton podcast. Prends le podcast, colle-le sur ton cœur. Le Québec est derrière toi. On t'aime.